Annick Coupé, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour cet entretien téléphonique. Vous êtes secrétaire général d'Attac France et nous avons souhaité aborder avec vous la pétition « Plus jamais ça, construisons ensemble le monde d'après ». Pétition lancée par 16 organisations, associations et syndicats. Nous y reviendrons. Mais avant tout, Annick Coupé, ce 1er mai doit être particulier pour quelqu'un qui est plutôt habitué à manifester à l'occasion de cette journée de la fête internationale des travailleuses et des travailleurs. Je rappelle que vous avez eu des responsabilités à la CFDT-PTT, c'était il y a un petit moment. Vous avez ensuite, en 1988, cofondé le syndicat Sud-PTT et vous êtes ensuite devenu porte-parole de l'Union syndicale solidaire, union qui regroupe notamment les syndicats Sud. Ça, c'était de 2001 à 2014. Alors, ce 1er mai 2020, Annick Coupé, plutôt particulier, donc.
Oui, effectivement, je crois que ça risque d'être le premier 1er mai où je ne vais pas aller manifester, alors que je crois que j'ai toujours manifesté le 1er mai depuis fort longtemps, c'est-à-dire depuis que j'ai commencé à travailler. Donc, ça fait effectivement très longtemps. Oui. Ce 1er mai est très particulier puisque on est dans cette crise de la pandémie du Covid, on est confiné. Alors je pense qu'il y aura sans doute beaucoup de façons de s'exprimer le 1er mai pour ne pas oublier que cette journée effectivement est celle de, comme vous l'avez dit, de la journée de solidarité internationale des travailleuses et des travailleurs, et au-delà, je dirais, et la journée où s'expriment les mobilisations sociales dans leurs diverses formes, dans leurs divers mouvements et dans l'ensemble du monde entier. Donc je pense que d'une façon ou d'une autre, cette année, ça devra peut-être encore plus s'exprimer, parce que ce besoin de solidarité internationale, ce besoin de solidarité avec les plus précaires, eh bien, il est sans doute encore plus fort en cette période de pandémie, avec tout ce que cette pandémie veut dire, quoi. Donc oui, on sera vraisemblablement pas dans la rue très massivement ce jour-là, et pourtant les raisons d'y être sont peut-être encore plus nombreuses que les années précédentes. C'est là tout le paradoxe de la situation.
Alors, en lien avec cette journée, d'une manière plus générale, donc vous êtes aujourd'hui, vous êtes investi au niveau de ATTAC, je rappelle, l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Et ATTAC est une des organisations donc, qui a lancé cette pétition « Plus jamais ça, signons pour le jour d'après ». Alors, avant d'en venir au contenu de cette pétition, au texte. Donc 16 premières organisations sont à l'initiative de cette pétition et c'est un regroupement assez diversifié puisqu'il y a des organisations syndicales, il y a des associations liées à la protection de l'environnement et il y a aussi Action Nouvelante par exemple, COP21, enfin donc il y a une diversité de cet appel, Annick Coupé, comment ça s'est mis en place et quels sont les liens qui vous réunissent en fin de compte?
En fait, cet appel et cette pétition, c'est pas quelque chose qui arrive. Enfin, il y a une petite histoire, un petit historique de ces contacts. C'est-à-dire que en gros, pour moi, c'est à l'occasion un peu du mouvement des Gilets jaunes que des contacts ont été. Alors, des contacts existent entre ces organisations depuis des années, etc. Mais disons que au moment du mouvement des Gilets jaunes, en fait, il y a eu des réflexions entre diverses organisations, que ce soit des syndicats, des associations environnementales, etc. Puisque le mouvement des Gilets jaunes, en fait, il s'est déroulé au moment aussi où montait un mouvement pour la justice climatique qui s'est traduit en France comme dans d'autres pays par des marches pour le climat en 2019. Et il y a eu un premier texte en mars 2019 qui regroupait quasiment les mêmes organisations que celles qui sont à l'origine de la pétition « Plus jamais ça, signons pour le jour d'après », avec l'idée autour du mot d'ordre « Fin du monde, fin du mois, même combat ». Bon. Et des liens se sont créés. Et à ce moment-là, c'était aussi assez intéressant parce qu'il y avait des organisations syndicales, les mêmes qu'on va retrouver aujourd'hui, la CGT, Solidaire, la FSU, la Confédération Paysanne pour le Monde Paysan, et puis des organisations comme Greenpeace ou comme le CCFD et d'autres. Eh bien, c'était aussi l'idée. Et on avait aussi à ce moment-là, par exemple, le comité Vérité Justice pour Adama, donc, et d'autres associations ou comités qui luttent sur la question des violences policières dans les quartiers. Donc des liens existent déjà depuis un certain temps et je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est que je crois que tous ces mouvements partagent l'idée que face aux enjeux sociaux, écologiques et plus largement démocratiques, eh bien il n'est plus possible de penser les solutions, les réponses seules dans son coin. Même si chaque mouvement a ses spécificités, évidemment pour le syndicalisme c'est d'abord l'action dans le monde du travail et l'organisation des salariés, mais au-delà de ça, on voit bien que les enjeux sont tellement forts qu'il faut maintenant essayer de les travailler, de les penser ensemble. Alors, pour en revenir à la pétition « Plus jamais ça, signons pour le jour d'après », eh bien effectivement, face à cette pandémie dont on voit bien qu'elle bouscule, elle bouleverse énormément de choses, que ce soit dans le domaine social, dans le domaine environnemental, dans l'enjeu démocratique, et évidemment sur ce qui est en train de se passer, les conséquences par exemple du confinement qui ne sont pas les mêmes selon où vous vous situez dans la société. Évidemment, c'est les plus précaires qui vont être les plus touchés. Bon, et donc il y a eu cette idée de s'exprimer ensemble, donc il y avait eu un premier appel et puis qui a débouché sur cette pétition. Donc oui, je crois que juste l'idée forte, c'est vraiment face aux enjeux de société qui sont les nôtres aujourd'hui dans cette pandémie, mais je dirais qui sont démultipliés par rapport à ce qu'on connaissait avant, eh bien il y a l'idée qu'on doit travailler à répondre ensemble et à se mobiliser ensemble.
Encore un petit mot sur les signataires avant d'en venir directement au contenu de cette pétition. Vous avez évoqué donc les organisations syndicales qui signent. C'est une petite surprise quand même de voir la CGT dans un appel commun avec Greenpeace France, avec les Amis de la Terre France, donc Annie Coupé.
Oui, c'est effectivement, ça peut apparaître comme assez surprenant. Je pense que ce que ça montre en tous les cas, c'est que les enjeux écologiques tels qu'ils sont un peu montés en puissance depuis quelques années dans notre société, en France comme dans beaucoup de pays dans le monde, eh bien, c'est des enjeux qui traversent toutes les organisations. Et même une organisation comme la CGT, qui effectivement est l'organisation syndicale qui a défendu le nucléaire, par exemple, pour parler des sujets qui fâchent, ou au moins des sujets en débat, eh bien même une organisation comme la CGT, depuis quelques années, on voit bien qu'elle est aussi travaillée par ses contradictions, parce que la CGT n'est pas en dehors des débats de la société. Et même si en son sein, les choses sont sans doute compliquées, parfois tendues, mais c'est vrai aussi, dans l'ensemble du mouvement syndical, eh bien, on voit bien qu'aucune organisation ne peut rester en dehors de ces débats-là, tellement ils deviennent, j'allais dire, vitaux, quoi. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs d'essayer de penser, même si c'est parfois très difficile, les enjeux sociaux et les enjeux écologiques en même temps. Et évidemment, c'est très difficile parce que, sans parler du nucléaire, on voit bien la contradiction, elle est très forte. Mais prenons un autre exemple qui est celui de la production automobile, par exemple. Bon, il est clair que si on veut changer radicalement les choses en matière de pollution, par exemple, eh bien, on peut pas continuer à avoir une circulation de voitures au niveau où elle est, notamment dans les grandes villes, etc. Bon, eh bien, ça, évidemment, pour des organisations syndicales qui sont implantées dans le secteur automobile, et par exemple, c'est le cas de Solidaire, hein, avec le syndicat de l'industrie. Eh bien, comment se battre à la fois contre les patrons, je pense par exemple quand il y a eu la fermeture de l'usine PSA à Aulnay-sous-Bois il y a quelques années, ou qui supprimait plusieurs milliers d'emplois, comment à la fois se battre contre ça, parce que les salariés n'ont pas à payer les choix de l'entreprise, et en même temps, comment penser la reconversion de secteurs comme celui de l'automobile. Et on voit bien que c'est un sujet qui n'est évidemment pas facile, mais je crois que si les organisations syndicales ne prennent pas ça à bras le corps eh bien, je veux dire, d'une certaine façon, elles seront de plus en plus en difficulté. Alors ça ne veut pas dire que c'est simple, mais je pense que c'est cette question-là que les syndicats comme Solidaires, mais aussi la CGT aujourd'hui et la FSU, eh bien, ont pris conscience et essayent de le travailler, et avec l'idée que, justement, c'est important de le travailler avec des organisations type Greenpeace ou les Amis de la Terre, qui sont sur des enjeux écologiques. Et du côté de ces associations, par exemple sur Greenpeace ou les Amis de la Terre, il y a aussi une prise de conscience qui s'est faite sur le fait qu'on ne pouvait pas penser les enjeux écologiques indépendamment des enjeux sociaux. Donc je crois que c'est un mouvement qui s'est fait du côté des organisations syndicales, mais aussi du côté des organisations écologiques qui travaillent sur les enjeux environnementaux et les enjeux écologiques. Il y a cette idée que on peut pas penser les choses séparément maintenant, c'est plus possible, quoi. Donc je crois que c'est ça qui vraiment nourrit le fait que il y a des bougies importants dans les organisations, que ce soit à la CGT d'un côté ou Greenpeace de l'autre.
Oui, donc, et vous l'avez dit, c'est cette pétition, plus jamais ça, signons pour le jour d'après, fait suite à un appel qui a circulé très rapidement, après le début du confinement, un appel pour un futur écologique, féministe et social. Alors, cette pétition, elle se décline en deux parties. Tout d'abord, face à l'urgence sanitaire, vous expliquer que des mesures de rupture sont nécessaires à la suite de la tribune, donc plus jamais ça, préparant le jour d'après, les signataires de cette pétition demandent au gouvernement de prendre immédiatement 4 mesures. Donc ça, c'est la première partie. Et donc vous mettez en avant 4 mesures. La première, l'arrêt immédiat des activités non indispensables pour faire face à l'épidémie. Annie Coupé, qu'est-ce que vous entendez par activités non indispensables ?
Je crois que d'abord, on a vu quelles étaient les activités indispensables dans une société. Et ça, je pense que c'est très important, c'est-à-dire que effectivement, on voit bien aujourd'hui que ce qui aide à ce que la société tienne debout, tant bien que mal, dans cette période de pandémie extrêmement grave, eh bien, c'est des activités et c'est des salariés dont, en général, il n'y a pas beaucoup de reconnaissance par les pouvoirs publics, par le patronat, etc. Bon, et évidemment, je pense à tout le personnel médical, des médecins aux aides-soignantes ou au personnel de nettoyage dans les hôpitaux, mais je pense aussi évidemment aux personnes qui nous permettent de manger aujourd'hui, que ça soit les producteurs agricoles, que ça soit les personnes qui transportent les productions agricoles vers les villes, ou que ça soit dans les supermarchés ou les magasins d'alimentation. Bon. Alors ça, je pense que c'est important. Et de l'autre côté, évidemment, il y a tout ce que des activités non indispensables. Alors la ligne, de séparation est parfois peut être compliquée. Mais en tous les cas, je prendrai un exemple, celui des travaux publics. On a vu aujourd'hui, depuis le début d'ailleurs, la reprise d'activités, de travaux qui n'ont absolument aucune, qui ne sont absolument pas indispensables aujourd'hui, et malgré ça, des chantiers ont repris. On a vu, évidemment, l'exemple qui est connu, c'est celui d'Amazon. Amazon qui a continué jusqu'à ce qu'il y ait une décision du tribunal, et parce qu'il y a eu plainte d'une organisation syndicale, en l'occurrence c'était Solidaires. Amazon continuait à faire travailler ses salariés dans des conditions sans aucune protection, pour envoyer tout ce qui est 90% des produits envoyés par Amazon, qui ne sont absolument pas des produits de première nécessité dans une période de pandémie. Bon, donc on a vraiment ce type. Amazon est tout à fait représentatif de ça, c'est-à-dire que en gros, même Amazon finalement voulait profiter de cette période de pandémie pour faire encore plus de fric, sur le dos des confinés, j'allais dire. Bon, et ça, évidemment, il y a une responsabilité des pouvoirs publics et donc du gouvernement, en tous les cas, à interdire ce qui n'est pas indispensable aujourd'hui à ce que effectivement on puisse se soigner, on puisse manger.
Je pense que l'idée générale, c'est que la protection de la santé des populations et notamment des salariés doit prévaloir sur les considérations économiques. Mais justement, par rapport à cela, comment vous analysez les annonces du président Macron avec un début de reprise d'activité plus importante à partir du 11 mai?
Ah, c'est assez clair, c'est-à-dire que je pense que Macron répond explicitement aux demandes du MEDEF. On a vu très vite, alors pas au tout début du confinement ni de la pandémie, parce que ça aurait été quand même un peu trop, on a vu très vite quand même le MEDEF et un certain nombre de voix médiatiques qui soutiennent le MEDEF, dire oui, effectivement, il faut très vite que l'économie reprenne et qu'elle reprenne comme avant. Et même plus qu'avant, puisque on a parlé de pouvoir travailler plus longtemps, d'augmenter le temps de travail, de déroger au code du travail, etc. Donc je pense que la ligne de conduite de Macron a été de répondre aux exigences du MEDEF. C'est très clair. Et ça, évidemment, ça ne va pas. C'est-à-dire que ce qui prévaut, c'est pas effectivement de sortir de la pandémie le mieux possible d'un point de vue santé publique et d'un point de vue qu'il y ait le moins de dégâts sociaux possible, mais c'est bien de le plus vite possible de reprendre les affaires, quoi. Exactement. Et c'est là où on voit que c'est pas tellement une surprise, c'est-à-dire que depuis que Macron est arrivé au pouvoir, on pourrait reprendre toute sa politique, c'est une politique au service du patronat et des plus riches dans cette société.
Donc on peut considérer que votre première demande de la pétition, demande au gouvernement pour prendre cette mesure d'arrêt des activités non indispensables, et n'est pas entendue, loin de là. Alors la deuxième demande comme mesure à prendre immédiatement, c'est réquisition des établissements médicaux privés et des entreprises afin de produire dans l'urgence masques, respirateurs et tout le matériel nécessaire pour sauver des vies. Est-ce que là vous estimez qu'il y a eu il s'est passé quelque chose ou pas du tout?
En tous les cas, il s'est pas passé grand-chose, c'est-à-dire que même quasiment rien du point de vue de ce qu'il aurait été nécessaire de faire. On a très vite vu que effectivement il y avait un gros problème puisqu'il y avait pas de matériel médical, il y avait pas de masque, il y avait pas de blouse, il y avait pas de tout ce qui était nécessaire pour les soignants et au-delà des soignants toutes les personnes qui sont en contact avec d'autres personnes de par leur travail et de par leur travail indispensable, et pour le personnel soignant, les respirateurs et tout ce qui était nécessaire. Et très vite, on s'est aperçu de ça. Alors, je veux dire, les raisons pour lesquelles il n'y a pas ce matériel, etc., on les connaît maintenant et il faudra évidemment y travailler dans l'avenir. Mais immédiatement, ce qu'il aurait été possible de faire, c'est de prendre des mesures pour réorganiser, réorienter des productions en France qui auraient permis de produire des masques, de produire des respirateurs, etc. Et ça, ça n'a pas été fait. Il y a eu des appels généraux à la bonne volonté des entreprises, etc. Mais il n'y a pas eu de décision qui aurait permis de répondre à la hauteur de ce qu'il y avait besoin. Et par exemple, l'exemple qu'il y a en Bretagne de cette usine qui a été fermée il y a 2 ans par ses dirigeants américains, qui a été tout de suite mise en avant la possibilité de faire redémarrer et donc de la mettre en coopérative, etc. À ce jour, il n'y a toujours pas de réponse, même s'il y a un vague engagement du gouvernement à aider à ça. Donc mais je pense que sur les 4 mesures qu'on a déclinées, effectivement, c'était des mesures qui pour nous, pour l'ensemble des organisations, apparaissaient comme des choses faisables immédiatement par un gouvernement qui aurait vraiment eu la volonté politique de répondre à l'urgence dans laquelle on était. Aucune de ces mesures n'a été prise.
Donc, troisième et quatrième mesure. La troisième, c'est la suspension immédiate du versement par les entreprises de dividendes, rachat d'actions et bonus au PDG. Bon, ça, il y a eu aussi des démonstrations qui ont montré que vous n'avez pas été entendu. Et puis, la décision de ne pas utiliser les 750 milliards d'euros de la BCE pour alimenter alimenter les marchés financiers, mais uniquement pour financer les besoins sociaux et écologiques des populations. Donc là, de ce point de vue-là, pas non plus d'écoute de la part du gouvernement, comme vous venez de le dire. Alors, deuxième partie de la pétition. Il ne s'agit pas ensuite de relancer une économie profondément, je cite, profondément insoutenable écologiquement et socialement. Nous demandons que s'engagent sans plus attendre des politiques publiques de long terme pour ne plus jamais revivre ça. Donc l'idée, c'est de se projeter à plus long terme, de prendre peut-être revenir sur ce qui s'est passé au niveau de la crise économique de 2008, éviter les mêmes erreurs suite à cette crise. Et donc, première chose, c'est un plan de développement de tous les services publics, Annick Coupé, qui est demandé.
Bah, je crois que là, il n'y a pas besoin de grands discours pour voir que aujourd'hui, effectivement, c'est les services publics qui sont en première ligne, que ça soit évidemment la question de la santé, l'hôpital public, ou je pense même, par exemple, à la question de l'éducation nationale. Où effectivement on demande, donc on a demandé au personnel enseignant d'assurer la continuité de leur mission en période de confinement avec des situations extrêmement compliquées, je développe pas là-dessus, mais bon, on voit bien donc que cette question des services publics, elle est décidée. Or, cette question des services publics, ça fait 20 ans, même presque 30 ans, qu'il y a une casse systématique des services publics. Et en ce qui concerne l'hôpital, enfin, je pense que tout le monde a en tête les mobilisations extrêmement importantes portées par le personnel des hôpitaux depuis plusieurs mois, plusieurs années, et en particulier l'année dernière, et sur lequel le gouvernement avait fait la sourde oreille, mais absolument incroyable, quoi. Hein. Donc je pense que ce n'est pas possible, en tous les cas, de mon point de vue, mais je pense qu'il n'y ait rien qui se passe sur les services publics et en particulier sur l'hôpital, mais pas que. Hein. Donc je pense que c'est un enjeu qui apparaît aujourd'hui pour beaucoup de personnes dans notre pays comme vraiment décisif, quoi. Hein. Donc je pense que on peut pas continuer après cette crise. Je pense que cette crise est loin d'être finie, mais en tous les cas, il faut un changement de cap fondamental sur la question des services publics.
Alors Emmanuel Macron, dans ses allocutions, a appelé à des décisions de rupture et a placé des services en dehors des lois du marché. Vous y croyez, Annick Coupé, à ce discours?
Franchement, si c'était pas des enjeux aussi importants et aussi dramatiques, je rigolerais doucement, quoi. Mais parce que effectivement, le discours d'Emmanuel Macron, si on n'avait pas su que c'était Emmanuel Macron, il y a certaines phrases, ça aurait pu être des phrases portées par les organisations syndicales qui ont initié cette pétition. Or, il y a aucun acte de ce gouvernement depuis le début de la pandémie qui va dans ce sens-là. Il n'y en a pas un seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mesure qui indiquerait que effectivement cette idée de rupture dont a parlé Emmanuel Macron, il a la volonté de commencer à la mettre en œuvre. Donc voilà. Et donc je pense qu'en ce qui nous concerne, et quand le nous, c'est vraiment, je pense, l'ensemble des orientations signataires de cette pétition, effectivement, ce discours d'Emmanuel Macron sur la rupture, on ne va pas l'oublier. Mais on est vraiment persuadé que pour que cette rupture advienne, c'est pas des discours d'Emmanuel Macron dont on a besoin, mais on aura besoin de mobilisation et de rapport de force.
Alors l'autre aspect de réflexion porté par cette pétition, c'est la question de la répartition des richesses, hein, aller vers une meilleure répartition des richesses qui continue à être créée et énormément. Vous appelez à une fiscalité bien plus juste et redistributive, un impôt sur les grandes fortunes, une taxe sur les transactions financières, une véritable lutte contre l'évasion fiscale dans cette pétition.
Oui, je pense que c'est clair que justement, si on a besoin de services publics forts et avec des moyens humains, des moyens matériels, etc., eh bien, effectivement, il faut des moyens financiers pour répondre au développement des services publics. Et donc, ça veut dire qu'il faut, là aussi, changer de logique par rapport à tout ce qui s'est fait depuis pas mal d'années sur une fiscalité de plus en plus injuste et de moins en moins redistributive. Alors, il y aurait eu une mesure immédiate, symbolique et très importante, qui était la question de l'impôt sur la fortune. Là aussi, on aurait pu penser que c'était une mesure qui pouvait être prise très vite et qui aurait indiqué que le gouvernement voulait réorienter un peu les choses. Or, c'est pas du tout le cas. Donc là aussi, ça fait des années que des associations comme ATTAC ou pas qu'ATTAC, on porte des revendications très précises et des propositions pour faire en sorte que les entreprises qui ont des activités en France, payent leur juste part d'impôt. On a parlé d'Amazon tout à l'heure, on pourrait parler d'Apple, on pourrait parler de bien d'autres de ces multinationales qui ont des activités extrêmement importantes en France et extrêmement lucratives, qui ne payent quasiment pas d'impôts et en tous les cas qui payent beaucoup moins d'impôts proportionnellement que le patron d'une petite PME ou d'un petit commerce, par exemple. Bon, donc on voit bien que là aussi il faut vraiment une rupture et un changement de cap en matière de fiscalité, parce que sinon effectivement on nous dira on peut pas financer le plan de développement des services publics parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est le discours qu'on connaît depuis des années, mais comme en même temps on organise le fait qu'il y a moins de recettes pour l'État en baissant les impôts pour les plus riches et pour les multinationales, c'est ça qu'il faut arrêter.
Alors le dernier aspect, c'est un plan de réorientation et de relocalisation solidaire de l'agriculture, de l'industrie et des services pour les rendre plus justes socialement. Vous l'avez déjà évoqué, en mesure de satisfaire les besoins essentiels des populations, de répondre à la crise écologique. Donc on est effectivement ici aussi sur la convergence des organisations qui travaillent plutôt sur le terrain social et celles qui travaillent plutôt sur le terrain environnemental. Mais tout ça ne veut pas dire un repli sur soi, Annick Coupé, je pense.
Ah non, pas du tout. Je pense que personne ne pense que la solution est de fermer les frontières et de... Non, je pense que cette crise, par ailleurs, elle montre bien tous les enjeux internationaux et que c'est vraiment une crise mondiale. Donc les choses doivent être repensées à tous les échelons, je dirais, du local au mondial, à l'international et au niveau mondial, c'est clair. Alors évidemment, tout ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais là aussi, la question est de savoir vers quoi on veut aller. Or, je pense qu'aujourd'hui, cette idée de réorientation et de relocalisation, c'est pas une relocalisation pour faire la même chose que ce qui se passe au niveau international. C'est-à-dire que c'est pas une relocalisation, par exemple, pour produire deux fois plus de voitures en France et ne plus les produire à l'international. C'est pas cette question-là. Je pense que c'est de quoi on a besoin. Alors évidemment, ça suppose des débats de quel type de production on a besoin pour répondre aux besoins, de l'ensemble de la population, et comment on peut le produire. Ça pose aussi la question des conditions de travail, etc. Et où le produire. Et là, c'est toute la question, ça rejoint les enjeux écologiques aussi, c'est-à-dire à quoi bon faire des dizaines de milliers de kilomètres à des marchandises. Parce que ça a un coût énergétique extrêmement important. Bon, donc on voit bien que c'est tout ça qu'il faut repenser, retravailler. Alors, encore une fois, c'est plus facile à écrire en deux phrases qu'à vraiment développer, mais je crois que c'est là où sans doute il nous faut faire preuve d'imagination sur, par exemple, comment on détermine les besoins. Est-ce que c'est à l'échelle d'un territoire? Est-ce que c'est à l'échelle d'une grande région? Est-ce que c'est à l'échelle du pays? Sans doute, il faut le penser en articulant les choses. Mais en tous les cas, on ne peut pas continuer comme avant, c'est-à-dire avoir de plus en plus de marchandises qui circulent d'un bout à l'autre de la planète avec des conditions de travail dans certains pays qui sont, enfin, je veux dire, voilà, qui ne respectent aucun droit fondamental, bon, etc. Enfin, tout ça est bien connu. Pour une consommation, je veux dire, qui n'a plus de sens pour beaucoup de choses. Et qui, en fait, conduit à des aberrations. Enfin, si on prend la question des vêtements, par exemple, alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a un pourcentage extrêmement important de vêtements qui sont détruits, qui ne sont même jamais portés, par exemple. Bon, donc on voit bien qu'il y a des aberrations, et je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire et qui suppose qu'on réfléchisse effectivement, collectivement, et là encore, pas seulement les organisations syndicales d'un côté et les associations environnementalistes de l'autre, mais on doit maintenant se penser, je crois, comme salarié, comme consommateur et pas opposer les choses, par exemple. Et évidemment, ce que je dis là sur la production, c'est aussi la question de l'enjeu de l'agriculture. Bon, et on voit bien aujourd'hui la question de pouvoir répondre aux besoins alimentaires et avec des filières courtes. Hein, on voit bien aujourd'hui l'importance que prennent dans cette situation de pandémie les circuits courts. Tout ça montre que c'est possible de repenser les choses, que ce n'est pas utopique, parce que concrètement, dans cette crise, il y a des pratiques qui se développent.
Donc, plus jamais ça, Annie Coupé, construisons ensemble le jour d'après. Pétition, vous en êtes où au niveau des signatures de la pétition?
Alors, je crois qu'on en est à peu près. Je crois qu'on devrait pas en être loin de 200 000, mais j'ai pas les derniers chiffres. Mais évidemment, il faut continuer à la faire signer parce que, comme on l'a vu en discutant ensemble, eh bien, pour l'instant, ce gouvernement ne prend absolument pas le chemin d'un changement de cap et d'une réorientation des politiques qu'il mène.
Voilà, donc une pétition qui se signe très facilement. Il suffit d'aller sur un des sites des organisations qui ont lancé cette pétition pour la signer. Mais Annie Coupé, je rappelle, hein, donc vous êtes secrétaire général d'Attac. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps pour évoquer cette pétition. Et puis surtout, un très bon 1er mai à vous.
Ben merci, bon 1er mai à vous et à tous les auditeurs et auditrices.